de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos. Comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Le président Jokowi veut que le ministre de la Défense Prabowo comprenne les problèmes des agriculteurs sur le terrain. L'ambassade aide à organiser les normes pour les produits d'exportation indonésiens vers le Japon, a affirmé le vice-président. Idi a déclaré que la pandémie de COVID-19 avait ouvert une nouvelle histoire pour le monde de la santé de l'Indonésie. L'Indonésie s'est remise de l'impact de la COVID-19, a affirmé le professeur à l'Université d'Indonésie. L'Indonésie et le Royaume-Uni ont signé un accord pour acheter pour 112 millions de dollars américains de produits du bois. Java Occidental a reçu une subvention de 10 millions de dollars américains de la Corée du Sud. Le gouvernement fixe l'impôt sur le revenu des MPME à IKN de 0%. Voici le journal complet. Le président Joko Widodo veut que le ministre de la Défense, Prabowo Subianto, comprenne les problèmes rencontrés par les agriculteurs sur le terrain. Par conséquent, le président a invité le ministre de la Défense, Prabowo Subianto, sur le lieu de la récolte de riz qui était l'un des points à l'ordre du jour de la visite de travail du président Jokowi à Kebumen dans le centre de Java jeudi. C'est ce qu'a déclaré le député de protocole de la presse et des médias du secrétariat présidentiel, Bey Mahmoudine, dans un court message reçu à Jakarta jeudi. On s'attend à ce que le ministre de la Défense Prabowo comprenne les problèmes des agriculteurs. De plus, il est également chargé de gérer la grange alimentaire ou les domaines alimentaires dans le Kalimantan central. De plus, de nombreuses personnes qui se trouvent sur les îles périphériques choisissent le métier d'agriculteur. En effet, les îles périphériques sont également la défense du pays qui relève des principales fonctions du ministère de la Défense. Le vice-président Maruf Amin a déclaré que l'ambassade indonésienne au Japon continue d'aider à organiser les produits halal indonésiens qui entreront au Japon afin qu'ils répondent aux normes établies par le gouvernement de l'État de Sakura. C'est ce qu'a déclaré le vice-président dans l'avion à son retour d'Osaka jeudi lorsqu'on lui a demandé s'il était nécessaire ou non de former une communauté économique et financière nationale de la charia pour les représentants étrangers face de l'Indonésie en centre pour les producteurs halal mondiaux en 2024. Le vice-président a déclaré que jusqu'à présent, l'Indonésie avait essayé d'augmenter la part des exportations halal. Selon lui, le ministère du Commerce a fait divers efforts de développement. En outre, la diaspora indonésienne à l'étranger importe également des produits nationaux, mais pas en grande quantité. Le conseil d'administration de l'Association des médecins indonésiens, PBID, a déclaré que la présence de la pandémie de COVID-19 qui frappe le monde depuis 3 ans a ouvert un nouveau record historique dans le monde de la santé en Indonésie. Cela a été dit par le président de PBID, Muhammad Adib Humaidi, lors d'un rassemblement des médias après 3 ans de la pandémie à Jakarta jeudi. Il a déclaré que la pandémie de COVID-19 a ouvert les yeux du monde de la santé sur le fait qu'en servant les patients, on ne peut pas seulement regarder la quantité ou le nombre d'agents de santé et le type de service, mais aussi la qualité qui est construite à partir des efforts de promotion et de prévention. Adib a ajouté que la pandémie de COVID-19 invite également les gens à vivre une vie plus saine. Dans ce cas, certaines des nouvelles habitudes qui sont apparues et sont devenues un mode de vie pendant la pandémie consistent à consommer des aliments plus nutritifs, à bronzer assidûment le matin, à prendre régulièrement des suppléments, à se reposer suffisamment et à accorder plus d'attention au bilan de santé. L'économie indonésienne s'est remise de l'impact de COVID-19. C'est ce qu'a déclaré le professeur de la Faculté de commerce et de commerce UFEB de l'Université d'Indonésie, UI, Bambang Brojonegoro, dans la mise à jour économique de PwC d'Indonésie, suivie à Jakarta jeudi. Il prévoit que la croissance économique d'Indonésie en 2023 sera toujours d'environ 5% ou seulement légèrement affaiblie par rapport à la croissance de 2022 qui était de 5,31%. L'inflation en 2023 devrait également être inférieure à celle de 2022, en partie parce que les prix des matières premières commencent à baisser. Cependant, selon Bambang, les conflits géopolitiques, la tendance à la hausse du taux d'entrée de référence de la Banque centrale des États-Unis et l'affaiblissement des économies des pays développés doivent être surveillés car ils ont le potentiel de freiner le rythme de la croissance économique nationale. Le ministre du Commerce, Zulkifli Hasan, a assisté à la signature d'un protocole d'accord pour l'achat de produits de bois entre l'Indonésie et le Royaume-Uni, avec une valeur commerciale potentielle totale pouvant atteindre 112 millions de dollars américains. La signature du protocole d'accord a été réalisée entre 10 sociétés indonésiennes et 2 sociétés britanniques. La présence du ministre du Commerce à cet événement est une série d'activités d'une visite de travail à Londres, en Angleterre, qui a lieu du 7 au 9 mars 2023. Dans sa déclaration écrite de jeudi, le ministre Zulkifli Hasan a déclaré que les produits qui intéressaient les entreprises britanniques étaient les produits en papier et les produits en bois, notamment les portes, les cadres de portes et leurs composants, ainsi que les revêtements muraux. L'Indonésie et le Royaume-Uni ont déjà conclu un accord de partenariat volontaire sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et le commerce ou APVFLEGT. Cela prouve que le bois indonésien est assuré d'être légal et durable. Le gouverneur des Java occidentales, Ridwan Kamil, dans sa déclaration écrite jeudi, a déclaré que le gouvernement provincial des Java occidentales avait reçu une subvention d'une valeur de 10 millions de dollars américains, soit environ 150 milliards de rupiah de la Corée du Sud pour le transport public vert. Les fonds seront alloués pour soutenir l'infrastructure, le bus BRT électricité ou EBRT, dont les processus de construction ont déjà commencé. Lors de sa récente visite de travail en Corée du Sud, Ridwan Kamil a rencontré le directeur du Centre Chung Nam pour l'économie créative et l'innovation, ou CCEI, sous le ministère coréen des PME et des démarrages, des représentants du gouvernement provincial de Chung Cheong Nam Do et de l'ambassade de Corée du Sud. CCEI est en train de mettre en œuvre l'installation de bornes de dressage de véhicules électriques pour EBRT à 3 emplacements de stations BRT en tant que subvention à Java occidentale par l'intermédiaire du ministère des Transports. Le gouvernement publie le règlement gouvernemental UPP numéro 12/2023 concernant les licences commerciales dans la capitale de l'archipel IKN. L'un de ses contenus est de stipuler une facilité d'impôt sur le revenu final de 0% sur les revenus provenant de la circulation brute de certaines entreprises pour les MPME. Cela a été transmis par le chef de l'autorité de la capitale de l'archipel OIKN, Bambang Susantono, à Nusantara, dans l'est de Kalimantan, jeudi. d'expliquer que le règlement gouvernemental vise à offrir une certitude, une opportunité et une plus grande participation aux acteurs commerciaux pour accélérer le développement de l'archipel. L'espoir d'une plus grande participation de ces acteurs commerciaux est une répartition équitable du développement, y compris pour accélérer le mouvement de l'économie indonésienne à l'avenir. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui intitulée « Ouvriers français contre la réforme des retraites ». Vous êtes avec moi Audrey. Sur le tard, la France est revenue à la tourmente mardi dernier, 7 mars, lorsque des milliers de travailleurs qui s'opposaient au plan de réforme des retraites du gouvernement ont prolongé la manifestation. Des manifestations nationales ont eu lieu dans la capitale française et dans d'autres villes pour la sixième fois depuis janvier, après que le plan de réforme des retraites a suscité l'indignation du public lors de son annonce l'année dernière. Les protestations des travailleurs français surviennent à un moment critique pour les travailleurs et le gouvernement français puisque Macron s'attend à ce que le Parlement adopte son plan visant à relever la limite d'âge pour les centimes. Macron a proposé que la limite soit de 64 ans ou 2 ans de plus que la précédente limite de 62 ans. Le Sénat français débat toujours du projet de loi jusqu'à la date limite du 12 mars. Selon la Confédération générale du travail française, environ 3,5 millions de manifestants sont descendus dans la rue à travers la France, dont 700 000 à Paris. Pendant ce temps, le rapport du ministère de l'Intérieur indique que 1,28 million de personnes ont assisté aux manifestations tout au long de mardi dernier. Les syndicats extrémistes en France ont déclaré que la grève durerait les prochains jours. Du moins dans certains secteurs, dont les transports publics et la raffinerie de pétrole Total Energy. Ils ont fixé de nouvelles journées de mobilisation pour les 11 et 15 mars. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, Twitter, après la sixième série de manifestations. Elles ont également appelé à la mobilisation des femmes mercredi et des jeunes jeudi 9 mars. Elles ont demandé à être immédiatement acceptées par le président Emmanuel Macron. En réponse aux revendications des syndicats, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a déclaré que les portes du gouvernement sont plus couvertes aux syndicats. La grève massive de la France a perturbé le service ferroviaire, contraint les écoles à fermer et interrompu les livraisons de carburant. Il faut donc trouver une solution pour que le public ne soit pas laissé par l'impact de cette grève. Bien sûr, il y aura toujours de l'espoir et une issue à chaque problème tant que les parties en conflit sont disposées à s'asseoir ensemble pour trouver la meilleure solution. Des manifestations prolongées ne feront qu'aggraver la situation en France. Espérons que les deux parties, à la fois le gouvernement et les manifestants, pourront rapidement résoudre ce problème pour le bien commun. Bon, cher Jeter, c'est tout le commentaire.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire aujourd'hui. Le 10 mars 1950, l'application de la politique monétaire Gunting Shafruddin en Indonésie. Gunting Shafruddin est une politique monétaire stipulée par Shafruddin Prawira Negara, le ministre des Finances du cabinet Hatta II, qui entre en vigueur le 10 mars 1950. Selon la politique, l'argent rouge ou l'argent nika est l'argent de la banque de Java de dénomination de 5 rupiah et plus ont été coupés en deux. Cette politique a été créée pour surmonter la situation économique de l'Indonésie qui à l'époque était en crise. A commencer par surmonter l'inflation, réduire la dette extérieure et s'attaquer à un déficit budgétaire de 5,1 milliard de rupiah. Le 10 mars 1956, la commémoration de la journée de l'Association des artistes cinématographiques. Le 10 mars 1956, la première dame Fatmawati a assisté et inauguré directement l'Association des artistes cinématographiques indonésiens ou PARFI. C'est la seule organisation qui peut devenir un refuge pour les cinéastes indonésiens pour continuer à travailler et à se battre pour les idées, pour le bien d'une industrie cinématographique indonésienne de plus en plus avancée. À ses débuts, le PARFI s'est déplacé pour manifester devant le président. Cette manifestation était contre l'invasion des films étrangers qui avaient commencé à entrer en Indonésie. Le grand nombre de films étrangers qui sont entrés est certainement devenu une menace pour la production cinématographique indonésienne, notamment à l'époque coloniale. On espère que cette lutte continuera à soutenir le meilleur développement de l'industrie cinématographique en Indonésie. Chaque 10 mars est célébré comme la journée de l'unité des artistes cinématographiques indonésiens en tant que forme de soutien à l'industrie cinématographique indonésienne qui existe aujourd'hui. Le 10 mars 1977, le lancement du satellite indonésien Palapa A2 depuis le centre spatial de Kennedy aux États-Unis. Le satellite de télécommunication Palapa est un satellite géostationnaire tiré du nom Serment de Palapa, le Patih Gajah Mada du royaume de Majapahit de 1334. L'exercice historique montre que le premier satellite indonésien a été lancé par une fusée américaine. Le satellite Palapa 2 répond aux besoins de télécommunication et de défense de la sécurité de l'ASEAN. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
16e longtemps pour l'arbitre suivant, voici donc mon Indonésie ayant pour le titre. Le ministre indonésien du commerce rappelle aux gens l'importance de l'alphabétisation dans le commerce à terme des matières premières. Le ministre Zulkifli Hasan rappelle aux gens l'importance de l'alphabétisation dans le commerce à terme des matières premières. Le ministre du commerce Zulkifli Hasan a ouvert le mois de la littératie en matière de négociation des contrats à terme sur le marchandise 2023 qui s'est tenu à Jakarta mardi dernier 7 mars. Cet événement a été organisé par l'Agence de réglementation du commerce des contrats à terme sur marchandises au COFTRA du ministère du commerce en collaboration avec l'Association indonésienne de négoce de contrats à terme sur matières premières au ASPEBTINDO. Le programme du mois de la littératie en matière de négociation de contrats à terme sur les marchandises vise à accroître les connaissances en matière de négociation de contrats à terme sur les marchandises en fournissant une compréhension correcte et appropriée parmi les personnes afin que la mise en œuvre du commerce à terme sur marchandises soit conforme aux lois et réglementations. Dans ses remarques citées par l'agence de presse Antara, 7 mars, le ministre Zulkifli Hasan a rappelé que les clients ou les clients potentiels doivent comprendre les affaires du secteur des produits de base dans lequel ils se trouvent, ses risques, l'emplacement et le contexte de produits dans lequel ils investiront. Selon le ministre Zulkifli Hasan, mois de la littératie en négociation de contrats à thème sur les marchandises 2023 est un moment important pour rappeler au public que le commerce de matières premières a des profits et des pertes égaux. Zulkifli a déclaré que le mois de l'alphabétisation vise à donner au public et aux consommateurs une compréhension complète de ce domaine. Pendant ce temps, le chef par intérim du COFTRA, Didit Nurdiat Moko, a déclaré que le commerce à terme des matières premières était considéré comme assez tentant pour les personnes qui souhaitent réaliser des bénéfices rapides. Cependant, selon Didit, ce n'est pas tout à fait vrai car de nombreux clients sont piégés dans des investissements illégaux, dont l'un est un robot de commerce qui était à la mode en 2022. Didit a également expliqué que cela était dû à la compréhension limitée du public sur le commerce à terme des matières premières. En outre, il existe encore des acteurs commerciaux qui enfreignent les réglementations au profit des lacunes des réglementations existantes. En 2022, la COFTRA a enregistré un certain nombre de plaintes du public concernant le négoce à terme des matières premières. Ce chiffre a augmenté par rapport à 2021. Didit a également déclaré qu'il y avait deux types de rapports du public, à savoir l'investissement légal et l'investissement dans les courtières, sans comprendre comment fonctionne le commerce à terme des matières premières. C'est Zulitar, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Bintang kecil di langit yang gelap, di mana dirimu tunjukkan rupamu. Bintang kecil di langit yang tinggi, jauh tuh ku sentuh, lihatlah diriku. Jangan kau pergi, kembali padaku. Temani sepiku saat malam tiba. Jangan kau redup di talan sang surya. Sirna cintamu kala pagi datang. Bintang kecil di malam yang gelap, sunyi sepi galau, ku rindu parasmu. Bintang kecil di malam yang dingin, hangatkan duniaku, ceriakan hatiku. Jangan kau pergi,
kembali padaku, temani sepiku saat malam tiba. Jangan kau redup di telan sang surya, sirna cintamu kala pagi datang. Kembali padaku, temani sepiku saat malam tiba. Jangan kau redup di telan sang surya, sirna cintamu kala pagi datang. Akan hidupku, oh, oh.
Bintang kecil di malam yang indah,
sinari terangi hangatkan hidupku.
Bintang kecil di malam yang indah, sinari terangi hangatkan hidupku.
Oh, oh, oh. Bintang kecil di malam yang indah, sinari terangi hangatkan hidupku.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant c'est le temps pour l'émission de magazine culturel intitulé Umbul Penging. Vous êtes avec moi, Audrey. Serge Huitard, en voyageant à Boyolali, Java Central, vous devez visiter l'attraction touristique Umbul ou ses sources, car elles sont le pilier du tourisme. Umbul Umbul à Boyolali offre de l'eau douce du sol. Parmi les nombreux fanions de Boyolali, l'un des plus connus est Umbul Penging, car il évoque un passé royal. Sur le plan administratif, ce bain est situé dans le village de Duku, de Banyu Dono, à Boyolali, Java Central. L'emplacement est à environ 20 km de la ville de Surakarta et prend environ 40 minutes. De Boyolali, il n'y a qu'environ 14 km et prend environ 20 minutes. Sarjetar Umbul Penging est un complexe balnéaire laissé par le Surakarta Sunanat. Ce bain a été construit par le roi de Surakarta, à savoir Sri Paduka Pakubono X. Selon les récits de la population locale, ce bain était à l'origine un lieu de détente pour le roi et sa famille. Parce que comme lieu de détente pour le roi et sa famille. Les bains étaient donc fermés au public, mais au fil du temps, les bains étaient libres d'entrée pour les visiteurs, en particulier à partir de l'époque coloniale néerlandaise. Umbul Penging a apparemment trois bassins de baignade. Le premier étant le plus proche de l'aire de stationnement des véhicules et Umbul Temanten, ou marié en indonésien. La piscine mesure 33 multiplie 24 mètres. Aux quatre coins de la piscine, il y a des escaliers pour entrer dans la piscine. La prochaine piscine de baignade est Umbul Duda, qui est située derrière Umbul Tementen. Umbul Duda est la plus petite piscine parmi les trois autres piscines de la région d'Umbul Penging. La forme est un rectangle de 12 multiplié 8 mètres, avec un sol naturel recouvert de roches de rivière. Le troisième bain est Umbul Ngabean, qui est le plus à l'est de la région d'Umbul Penging. L'architecture de l'entrée du Fanion est épaisse avec une sensation royale. Se baigner ici, c'est comme être au milieu du palais royal du passé. Un autre bain est un bain artificiel pour les enfants. Serge Huitard, ceux d'entre vous qui visitent Umbul Penging ne peuvent pas simplement nager dans cette zone. Ceux d'entre vous qui aiment la pêche peuvent pêcher à Win-Win Fishing, au sud d'Umbul Ngabean. Même s'il s'agit d'une attraction touristique préférée, le billet d'entrée à Penging Umbul n'est pas cher. Le prix de billet ne sont que de 3500 de roupies en semaine et de 4500 de roupies les jours fériés. Pendant ce temps, les frais de stationnement ne sont que de 1500 de roupies pour les motos et de 250 000 de roupies pour les voitures. Bon, Serge Huitard, c'est tout. Le magazine culturel.
Dream, 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 take a leap of faith, believe in your dream.
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Serge Littard, Solidar, bonsoir. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de l'Indonésie en couleur. Intitulé Festival du chocolat de Glenmore à Banyuwangi. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, le gouvernement de la région de l'Est Java Banyuwangi cherche à promouvoir les produits de chocolat en organisant le Glenmore Chocolate Festival. Le festival prend le nom d'une variante de chocolat produite à Perkebunan Nusantara SA 12 Kendang Lembu, district de Glenmore. Le chef du bureau de la culture et du tourisme de la région de Banyuwangi, Muhammad Yanuarto Bramuda, a déclaré que le festival était rempli de concours culinaires à base de chocolat. Au Glenmore Chocolate Festival, le public peut voir directement les attraits de la transformation du cacao en chocolat, depuis la récolte des cabos de cacao, la sélection et le séchage des fèves de cacao jusqu'au processus de fabrication de la poudre de chocolat. Chaque jour, le Glenmore Chocolate Festival se tiendra à Dusun Kokwa dans la région de plantation les 11 et 12 mars 2023. Selon Yanuarto, le cacao Glenmore est l'un des meilleurs ingrédients de fabrication de chocolat au monde. Actuellement, Perkebunan Nusantara 12 SA a ouvert une usine de transformation du chocolat et l'a ouverte au public. L'une des prima donna de Dusun Kokwa est le type de cacao Edel qui est connu dans le monde sous le nom de cacao de Java. Pendant le festival, un autre événement aura également lieu, à savoir le cacao run. Les participants peuvent prendre part à l'événement de tourisme sportif en courant à travers les plantations de chocolat. En plus de la tenue du Glenmore Chocolate Festival en mars, il y aura également un Banyuwangi Street Food Festival qui se tiendra pendant un mois complet pendant le mois de Ramadan. Lors de cet événement, une variété de Banyuwangi culinaires locaux sera promue. Dans le Banyuwangi Street Food Festival, il existe de nombreuses spécialités culinaires, allant des spécialités Banyuwangi aux aliments contemporains très demandé par les visiteurs tels que le pain copior, les bananes prechat et autres. Bon chargé tard, c'est tout. L'Indonésie en couleur.
Siapkanlah dirimu, tunjukkanlah gayamu, karena malam ini menantimu. Lepaskanlah semua, segala beban yang ada, kini sudah tibalah saatnya. Jangan peduli semua, apa kata mereka. Senyum, lihat kita menari. Bintang berkelip mengikuti irama nada melodi lagu kita.
pergi dari tegang beban. Setelah ku lalui hari yang melelahkan, senyum senyam kilau bintang menyapa dalam kebersamaan. Waktunya bagiku untuk beraksi, chemistry alami bereaksi, sinkronisasi frekuensi. What we need right now is a party.
Jangan peduli semua apa kata mereka, salah kita semua.
Indonesia.
Temukan
kasih, jangan kau ragu untuk melangkah.
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson de Riau intitulée Kampar Maimbau. Chers auditeurs, la chanson Kampar Maimbau raconte la beauté naturelle de la région de Kampar, Riau, qui manque toujours même si les gens sont partis à l'étranger. Les paroles contiennent la culture qui est encore bien préservée. Bon, chers auditeurs, voici Abi de la Rosa, Giring Riau Rhythm et Suang Project vont chanter une chanson de Riau intitulée Kampar Maimbau. Bonne écoute.
Gatoi.
be alright. Keindahan alam Pulau Bojo menjadi pembuka salam yang semakin bisa mendukai awak jo sang pencipta alam. Start from yourself. Bersama menjaga mamalia o seimbang elo alam jo budayo di nagoi menjadi bukti saya budayo nak campur nama.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voixindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voix Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.